Avec nous ici en studio, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des affaires européennes, enseignant au Corps des Mines et à l'ESCP. Ce sommet informel convoqué donc en urgence à Paris. On entendait le mot électrochoc dans la bouche des Ukrainiens. C'est vraiment cet effet qu'a produit le changement de pied américain ici aussi en Europe, dans l'Union européenne.
Oui, une forme de tremblement de terre qui n'est pas entièrement surprenant. La tectonique des plaques, on la connaît. Les Américains nous lâchent, ils partent vers l'Asie. Obama l'avait déjà dit, ils pivotent. Simplement, jusqu'ici, ils étaient quand même avec nous, avec les Ukrainiens, auxquels il faut d'abord penser, avec les Européens, dans le rejet, la lutte contre l'agression russe de
l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ?
Alors, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est que précisément parce que les Américains, non seulement nous lâchent, lâchent les Ukrainiens, mais aussi font l'apologie, on l'a encore entendu via Donald Trump, de l'ennemi russe. Bien, ce qu'il faut se passer, c'est que les Européens doivent plus que jamais prendre leur destin en main et très concrètement, à court terme, essayer de voir comment ils peuvent continuer à soutenir l'Ukraine. Deuxièmement, s'il y avait un règlement diplomatique que nous annonce Donald Trump, contribuer à ce règlement, ça c'est ce que peuvent nous demander de manière plus constructive les Américains, sauf que pour l'instant ils ne veulent pas nous inviter à la table
des négociations. Il y a eu des déclarations contradictoires, parce que l'envoyé spécial en Ukraine, général Kellogg, dit non, ça se fera sans les Européens, et le chef de la diplomatie, Marco Rubio, dit si, les Européens pourraient être conviés, mais ça c'est...
Voilà, bon, peut-être qu'à un moment ils accorderont leur violon, mais en tout cas à court terme, c'est qu'est-ce qui se passe en Ukraine, et à presque un peu plus moyen terme, qu'est-ce qui se passe dans l'OTAN, parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Jusqu'ici, nos alliés américains étaient dans une alliance atlantique, donc contre la Russie, c'est comme ça que ça s'est construit. Est-ce qu'ils vont y rester ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour que ces alliés qui deviennent, là, à court terme, quasiment des adversaires, des adversaires sur le plan commercial, des adversaires sur le plan idéologique, des adversaires sur le plan diplomatique, puisqu'ils s'entendent sur notre dos et sur le dos de l'Ukraine avec la Russie, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'au minimum, ils deviennent des partenaires ?
Une question sur le format de cette réunion. Il y a 7 pays, et d'ailleurs pas seulement de l'Union européenne, 7 pays seulement, on allait dire, mais il y a aussi le Royaume-Uni. D'où est-ce que ça sort, ce format ? Qui en a décidé ? Ça s'est décidé dans l'urgence ?
Oui, je crois que c'est lié à l'urgence. C'est un format, entre guillemets, capacitaire, comme diraient les militaires. Les armées qui sont les plus opérationnelles sur notre continent, avec les Royaumes-Unis, à ce titre-là, qui sont réunis en urgence par Emmanuel Macron, compte tenu du tremblement de terre que j'évoquais. Moi, je regrette que, par exemple, les Tchèques ne soient pas là. Petr Pavel, le président tchèque, avait lancé une initiative pour faire acheter des obus aux Ukrainiens qui en avaient bien besoin. Je regrette que le Premier ministre lituanien ne soit pas là non plus, parce que
le Danemark représentera les pays baltes.
Oui, d'accord, mais enfin, il n'était pas très difficile de l'inviter. Autant je comprends que ce ne soit pas d'abord à 27, parce que d'abord, il y a urgence, qu'il y a de la logistique, que dans les 27, il y a des pays neutres, comme l'Autriche et l'Irlande, qui seraient quand même très mal à l'aise, puisque là, on va quand même parler notamment du déploiement de troupes en Ukraine. Autant, je pense qu'il y a au moins deux absents, là, la Lituanie et la République tchèque, ça sera pour la prochaine fois, sans doute.
Et Keir Starmer, on l'entendait dans le journal, le Premier ministre britannique, dit ce matin dans le Daily Telegraph au Royaume-Uni qu'il est prêt à envoyer des troupes. Ça veut dire que la France va suivre ?
En tout cas, le président Macron l'avait déjà envisagé il y a quelques temps. Simplement, ce n'était pas tout à fait le même contexte, puisque envoyer des troupes, pourquoi ? Ça peut être pour deux raisons. D'ailleurs, Keir Starmer, dans le Telegraph, le dit. Ça peut être que si les Ukrainiens décident de continuer la guerre sans les moyens que leur accordaient les États-Unis, qui sont des moyens militaires et technologiques très importants, les Européens peuvent eux-mêmes contribuer, y compris sur le terrain. Et puis deuxièmement, c'est quand même l'hypothèse de travail la plus probable, s'il y avait une sorte de règlement négocié ou même un gel du conflit, parce qu'il n'est quand même pas certain que Vladimir Poutine va vouloir négocier et conclure un accord, eh bien il faudrait sécuriser le règlement et peut-être, pour cette raison-là, déployer des troupes en Ukraine, des troupes britanniques, nous dit Keir Starmer. Je crois que le président Macron déploiera des troupes françaises également.
Il faut réécouter un court extrait de ce discours de Munich, le vice-président américain J.D. Vance, parce qu'on dit qu'il a provoqué un électrochoc, notamment sur le plan idéologique. Écoutez notamment ce passage.
La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, celle du retrait de l'Europe de certaines de ses valeurs fondamentales, valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique.
Il y a un député allemand, plutôt pro-américain, qui est cité par Le Monde ce matin, et il dit « les Trumpistes veulent nous faire la peau, ils veulent diviser l'Europe ». C'est vraiment ça l'effet recherché ?
Oui, absolument. Norbert Röttgen, si je crois bien l'identifier. En effet, un atlantiste, et donc il faut l'écouter. Écoutez, M. Vance serait plus crédible quand il vante la liberté d'expression s'il n'allait pas s'afficher quelques heures plus tard avec la leader de l'AFD, donc l'extrême droite allemande, parce que clairement, au-delà de la défense d'un système, il y a des convergences idéologiques, voilà, avec la droite extrême et l'extrême droite en Europe. C'est ça qu'il veut nous dire. Oh, ne bâillonnons pas l'extrême droite en Europe parce qu'ils portent de bonnes idées. Ne régulons pas, par exemple, la haine en ligne sur Internet. Ben non, le modèle européen, c'est pas celui-là. C'est vrai qu'on n'a pas la même conception de la liberté que les États-Unis. Je prends un autre exemple très symbolique. Là-bas, ils sont libres de porter des armes, pas chez nous. Donc, il y a des différences, c'est naturel, qui puissent venir nous faire la leçon ainsi, surtout dans un forum qui était dédié à la sécurité. C'est assez symptomatique de sa croisade idéologique.
Et il y a quand même un risque très fort de division, parce que sur la question de savoir s'il faut ou pas s'émanciper de l'Amérique, qu'elle soit trumpiste ou non, tous les pays européens ne sont pas sur la même ligne.
En effet, mais je dirais que ce n'est pas si grave au sens où, sur les sujets diplomatiques ou militaires, il y aura très certainement des initiatives en géométrie variable, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire avec des pays volontaires. Au niveau commercial, il faut agir tous ensemble, c'est une politique commune, on va le faire, on va répliquer aux sanctions commerciales américaines, il n'y a même pas besoin d'unanimité, on sait faire, c'est une vieille politique. En matière militaire, l'Europe, on ne lui a jamais permis d'être une grande puissance militaire, il va falloir que les pays volontaires se déploient. On le voit déjà quand il y a des initiatives industrielles européennes, ça se fait à quelques-uns, l'avion de combat du futur, le char de combat du futur. Eh bien là, s'il s'agit de déployer des troupes en Ukraine, notamment, on ne va pas demander aux 27 de contribuer. Il faudra simplement qu'il y ait une masse critique suffisante. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'Espagne et l'Italie sont là, parce que l'Espagne et l'Italie sont deux grands pays d'Europe qui ne dépensent pas beaucoup pour leur défense et qu'il faudrait encourager à faire plus.
Voilà, donc l'Europe à géométrie variable et notamment sur les questions de défense, après ce séisme que vous nous décrivez. Merci Yves Bertoncini.
Merci à vous
d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.